mai. Ceux qui connaissent le camp Patmos, hein, le camp Patmos est situé entre l'ascension de notre Seigneur et la chute du diable. Alors, ouais. Ouais, c'est les installations hydroélectriques là, dans l'ascension, la chute du diable. Alors, je suis content de vous voir, des frères et sœurs dans la foi, hein, c'est plaisant, parce que j'en connaissais quelques-uns, là, mais pas beaucoup. Alors, je suis content, j'étais venu ici, ça fait déjà plusieurs années, je pense, ça fait une trentaine d'années que je suis venu ici. Il y avait une formation à ce moment-là, là, pour une campagne d'évangélisation. Et puis, c'est vraiment bénissant de vous voir. Alors, dans les chants ce matin, ça allait bien avec le message aussi. D'ailleurs, même le chant pour les enfants, hein, ça parlait de quoi, le chant pour les enfants? Oui, c'est lui qui bâtit la maison. Puis le titre du message ce matin, c'est « Je bâtirai mon église hein? ». Alors, ça parle de qui, ça? C'est qui bâtit son église, là? C'est le Seigneur, oui, c'est le Seigneur Jésus. Alors, on va tourner ensemble dans Matthieu, chapitre 16. Je vais prendre mes petites lunettes de lecture. Matthieu, chapitre 16, alors, les versets 13 à 16. Alors, c'est Jésus qui est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demande à ses disciples, et là, il pose deux questions. Ben, c'est presque la même question, mais il ne la pose pas aux mêmes personnes. Alors, ça, c'est important de voir un petit peu, là. Fait que là, il lui demande, il dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Alors là, il parle de tu sais, qu'est-ce que les autres disent? Pas dans le sens de qu'est-ce qu'ils pensent de moi. Jésus ne se préoccupe pas de qu'est-ce qu'on pense de lui, mais est-ce qu'on l'a reconnu? Qui dit-on que je suis? Je suis trop proche dans mon micro, OK. Alors, qui dit-on que je suis? Et c'est ça qui est important parce que c'est une question ça qui nous est posée aussi, qui est posée à chaque être humain sur la terre. Hein? C'est qui Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Alors, ils répondent, bien, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, qu'ils pensaient qu'il était hein, ressuscité. Là. Les autres Élie ou les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, là maintenant, c'est vous là ou toi, là, toi, qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que tu dis que je suis? Et Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Seigneur du Dieu vivant. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Tu sais, ça ne vient pas de toi, ça, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. On voit, par exemple, hein, dans Jean 6, 44, qui nous dit que nul ne peut venir au Père, nul ne peut venir à moi si mon Père, qui est dans les cieux, ne l'attire. Et puis, je le ressusciterai au dernier jour. Alors, c'est ça, c'est vraiment un miracle de Dieu. C'est le Père qui attire à Christ. Sinon, il n'irait jamais à Christ. Je pense que c'est peut-être trop collé. OK. Alors, tu sais, des fois, quand on fait de l'évangélisation, souvent, on a tendance, des fois, à amener le salut sur une formule, tu sais, qu'on récite. Puis, c'est vrai, tu sais, qu'on présente l'Évangile, puis on lance l'appel, tu sais, Dieu appelle les cœurs. Mais même si une personne pourrait répondre, des fois, on dit, bon, on va mettre de la pression ou tout ça, ou dépendamment de celui qui est habile, là, et puis la personne, bon, peut-être pour... Tu sais, la personne n'est pas... Va peut-être dire, oui, j'accepte, je reconnais Jésus qui est venu, puis qui est mort, qui est ressuscité, puis je l'accepte. Tu sais, parce que là, on met vraiment, tu sais, l'évidence de, si tu le reçois pas, ben tu es perdu pour l'éternité. Puis c'est vrai. Mais je veux dire, même si la personne récite cette formule-là, c'est pas ça qui la sauve. La personne peut même pas être touchée du tout dans son cœur et le faire juste pour par peur de l'enfer ou pour que tu lui laisses la paix aussi là. Puis ou peut-être ça peut être l'émotion aussi là dans ce qu'elle vit. Mais c'est ça, c'est qu'il faut. C'est vraiment un miracle de Dieu. C'est par grâce qu'on est sauvé. C'est pas par mon œuvre à moi. Et puis, alors ça, c'est important de comprendre cela. Jésus, il mentionne, il dit, c'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est vraiment mon Père qui est dans les cieux. Alors, c'est une révélation de Dieu. C'est qu'à un moment donné, ben c'est ça, c'est un miracle de Dieu qui me convainc dans mon cœur. Le Saint-Esprit me convainc que je suis pécheur et perdu. Puis Jésus, c'est mon sauveur. Il m'a sauvé. Hein? C'est mon Dieu, c'est mon sauveur. Alors, c'est le Père qui révèle ça. C'est là que se fait vraiment la conversion. Alors, il dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Hein? » On le voyait tout à l'heure dans le chant des enfants, là, sur ce roc, c'est Jésus. Ce n'est pas le même mot en hébreu qu'en français, là, on va dire en grec. Le pierre, petite pierre, puis le roc, là. Mais c'est ça, il y a une distinction. Nous, en français, c'est le même terme, là. Mais je bâtirai mon Église, c'est sur le roc, c'est sur Jésus lui-même. Puis chacun qui reçoit le Seigneur, ben, on est comme une petite pierre dans la construction de l'Église qui s'ajoute sur ce fondement-là. Alors, il dit aussi, « Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. » Alors ici, il parle de sa mort. Les chefs religieux ont voulu le mettre à mort. Pensant que tout allait s'arrêter, hein, et le diable aussi, mais ça n'a pas empêché de bâtir son Église parce que Dieu l'a ressuscité. Alors, comme on peut lire dans Actes au chapitre 2, dans Actes au chapitre 2, à partir du verset 23, ça nous dit, cet homme, en parlant de Jésus, qui a bien été enseigné, là, mais ça dit qu'il était livré selon le dessein livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu. Alors, si Jésus a été arrêté puis livré pour aller à la croix, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alors, c'est de penser justement là, de l'arrêter. Mais ça faisait partie du plan de Dieu, hein, qu'il vienne mourir sur la croix pour porter nos péchés. Mais verset 24, ça dit, « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Alors, on voit, c'est ça, quand il dit « Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle », c'est impossible. Dieu, il est maître. Jésus a dit « Je suis, moi, la résurrection et la vie. » Alors, on voit que David aussi va citer un passage dans l'Ancien Testament. Et au verset 26, il dit « Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. » Alors, voilà, c'est une promesse hein, qu'il allait faire, qu'il allait. Alors, mais c'est la même chose pour le croyant. Si on a cru en Jésus, on l'a reçu comme notre Sauveur et Seigneur. On est comme, quand on se fait baptiser, on témoigne qu'on est comme mort avec lui, puis on ressuscite aussi avec lui en nouveauté de vie. Alors, on voit lorsque Jésus est, lorsque Jésus a commencé à bâtir, hein, ben, c'est lui qui bâtit son Église, c'est pas mon Église. Des fois, on dit, ben, écoute, c'est OK, au niveau de mon Église locale, à quelle Église que tu vas, là, c'est correct, mais tu sais, il faut toujours penser que c'est l'Église du Seigneur, c'est lui qui bâtit. Même les ministères qu'on a, les tâches, il ne faut pas dire c'est mon ministère, oui, il ne faut pas s'enflager d'un fleur du tapis, là. C'est pas grave de le dire, mais il faut comprendre que, oui, le Seigneur, il me place là, mais c'est lui qui doit avoir la direction. Je dois toujours rechercher la direction dans tout ce que je fais, parce que c'est lui qui bâtit son Église à travers les personnes qu'il a choisies, à travers les dons qu'il nous donne. Et si on regarde dans Luc au chapitre 10, on voit la mission des 70 disciples. Il avait déjà envoyé ses apôtres avant, et là, il en désigne d'autres. Alors, au chapitre 10 de Luc, ça nous dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il devait lui-même aller. » Alors, on voit, c'est lui qui désigne les personnes, c'est lui qui les envoie, et parce que lui-même, et même s'il n'est pas là en personne, là, c'est lui qui visite les cœurs aussi. Et il dit au verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Alors, c'est lui qui bâtit sa maison, c'est sa moisson, c'est lui qui appelle, qui désigne les ouvriers, qui donne des matériaux, des dons, des aptitudes pour bâtir. Et là, si on regarde un petit peu plus loin aussi, dans le verset 17, on voit que là, les 70, ils reviennent là, de la mission de laquelle le Seigneur les avait envoyés. Puis là, ils disent, « Bien, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Ils sont tous excités, tous contents. Je pense qu'on le serait vraiment aussi. Mais c'est ça qui arrive aussi quand on témoigne des fois. On arrive tout joyeux, puis hey, c'est incroyable ce que le Seigneur a fait, puis il est arrivé telle chose. Puis, tu sais, j'ai vu sa main, puis c'était évident que c'était vraiment la main de Dieu. Et Jésus dit, ben, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors, tu sais, il était là présent quand même. Tu sais, c'est la même chose avec nous. Le Seigneur nous envoie. Il nous a désignés, il nous a choisis. Et puis, il est présent, là. Il voit toutes ces choses-là. Et il dit au verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alors, tu sais, parce que c'est Jésus qui bâtit. Fait que lui, il n'y a personne qui peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire dans sa construction au Seigneur. Alors, peu importe, il dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Lui qui essayait de tout barrer, hein, le chemin des disciples, sûrement, là, ou d'empêcher que les cœurs soient touchés ou qu'ils reçoivent le message. Ouais. Mais le Seigneur, c'est lui qui bâtit, qui est au contrôle de tout ça. Puis il n'y a rien de toutes ces puissances-là qui peuvent nuire à ce que l'œuvre que Jésus, lui, a préparée à l'avance aussi. Alors, il va dire, cependant, ne vous réjouissez pas seulement de ce que les esprits vous sont soumis, mais surtout de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et là, on voit Jésus qui tressaille de joie par le Saint-Esprit. Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, on pourrait dire comme aux docteurs de la loi, là, qui eux avaient toute la connaissance, mais tu les as révélés aux enfants, ça veut dire, tu sais, au reste du peuple, là, qui n'ont pas nécessairement toute cette connaissance aussi raffinée. Là. Et oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et toutes choses m'ont été données par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et est celui à qui le Fils veut le révéler. » Alors, tu sais, c'est vraiment par grâce hein, qu'on connaît le Seigneur, parce que c'est le Père qui décide à qui va le révéler. Comme il a dit à Pierre, c'est pas par la chair et le sang que tu dis ça, là, mais c'est notre Père, mon Père dans les cieux qui te l'a révélé. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Mais heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous l'ai dit, beaucoup de prophètes de rois qui ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. » Alors, c'est toute une grâce qu'on a, là, c'est de connaître le Seigneur, de connaître le Messie, le Sauveur, de l'avoir dans notre vie, d'avoir cette relation avec lui. Alors, c'est vraiment tout qu'un privilège qu'on a. Il faut en être conscient de cela. Si on va dans Ésaïe 42, on voit ce qui était annoncé là, de la venue de Jésus. Et puis, ça parle du serviteur de l'Éternel. Et Ésaïe 42, verset 1, « Mon serviteur, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. » On le voit lorsqu'il était baptisé, ça s'est accompli. On le voit dans Luc 4, ça se passe là aussi. Il dit, « Il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, il ne se découragera point, il ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en lui, ou toutes les nations. » Alors, tu sais, il n'y a rien qui va le décourager, Jésus. Il est envoyé, il va bâtir son Église, et puis il n'y a absolument rien qui va le décourager. Comme il dit, rien ne pourra vous nuire. Alors, c'est le Seigneur qui bâtit, puis, tu sais, le séjour des morts, ou même tout ce que le diable pourrait faire, ça ne peut pas empêcher Jésus de bâtir son Église. Puis aussi, que Jésus bâtit son Église, Ça ne dépend pas des gouvernements. Ça ne dépend pas du roi qui est en place. Ça ne dépend pas si c'est M. Carnet ou M. Pierre Poilievre. Ça ne dépend pas de si c'est Trump ou un autre. Souvent, il y a des chrétiens qui embarquent tellement dans ces guerres-là, là, qui se font comme une guerre, un combat. Mais ça dépend de Jésus. C'est Jésus qui bâtit. Puis toutes les personnes qu'il met en place, c'est lui qui les met en place. Il n'y a pas d'autorité qui n'ont pas été mis en place dans la souveraineté de Dieu. Même Pharaon, tu sais, Dieu, ça nous dit que Dieu, il a même endurci le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Alors, c'est Dieu qui met en place, puis quand même, tu sais, qu'on dirait, si c'est lui, ça ne marchera pas ou un tel. Jésus, il bâtit son Église. Ce n'est pas nous qui la bâtissons. On est des ouvriers avec lui, mais c'est lui qui bâtit. Fait qu'il n'y a rien qui va nuire à ce que Jésus veut faire. Les personnes que le Père, toutes les brebis que le Père lui a données, ben il va aller les chercher. Peu importe qui est président ou chef, ou peu importe la situation. Alors, ça ne dépend pas des rois, des gouverneurs, ça ne dépend pas aussi des subventions, d'un fois des crédits, d'un fois on a peur. Il y a beaucoup d'avantages encore au Québec, là, les organismes à but non lucratif, les églises, mais on peut les perdre, ces avantages-là. Est-ce que Jésus va bâtir son église quand même ou il va être bloqué? Jésus va bâtir quand même. Alors, ça ne dépend pas aussi de la technologie. Alors, le Seigneur peut l'utiliser à travers nous, on s'en sert, mais c'est pas ça qui... tu sais, si la technologie n'est pas là, ça n'empêche pas Jésus. Il n'y a rien qui empêche Jésus de bâtir son église. Ça ne dépend pas de la sagesse humaine, ça ne dépend pas de la puissance des hommes, mais ça repose sur Jésus qui est le chef de l'Église, qui est Dieu, qui est le Créateur, qui est le Seigneur, le Sauveur. Alors, c'est lui, ouais, qui est le souverain sur toute sa création. Alors ça, c'est important qu'on le pense, parce que souvent, des fois, on a tellement peur, on pense qu'il n'y a plus rien qui va marcher. Ça dépend, c'est lui qui bâtit son Église. Et si on va dans 1 Corinthiens, chapitre 1, 26 à 29, là, on a vu un peu c'est qui bâtit, mais avec qui Jésus bâtit son Église. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 26 à 29, ça dit, « Considérez, frères, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Alors on voit, Jésus ne travaille pas de la même manière que les hommes. Hein? Tu sais, dans les gouvernements politiques, par exemple, on va essayer de choisir les candidats vedettes, là, puis tu sais, ceux qui ont beaucoup de prestige, peu importe. Là. Mais le Seigneur, il ne fonctionne pas comme ça. Oui, il y a des personnes qui peuvent... Il peut en choisir aussi parmi des nobles, parmi des gens très haut placés. C'est lui qui choisit tout ça. Il a son but à travers tout cela, mais il choisit aussi les... Bien plus souvent, on voit, parce qu'il y a peu de ces personnes-là, ça dit surtout qu'il choisit les choses folles du monde, les choses qu'on méprise, qui ne sont rien. Alors, puis on voit, il a choisi hein, des bergers, par exemple, des gens qui allaient à la pêche, Zachée, le publicain, Matthieu aussi, qui était un collecteur d'impôts, puis qui, mais tu sais, bien sûr qu'il l'a, il l'a sauvé, hein, il lui a pardonné, il l'a sauvé, il l'a amené à la repentance. Mais je veux dire, ce sont des gens, des hommes et des femmes de toutes circonstances. Et on voit la Samaritaine là, que le Seigneur a utilisée. Il n'y a pas un Juif qui aurait utilisé cette personne-là. Là. Jésus est apparu à sa résurrection à des femmes à cette époque-là. Bien, on aurait pensé qu'il aurait apparu au docteur de la loi en place, au sacrificateur, au premier sacrificateur. Mais non, Jésus, il choisit toutes des gens ordinaires. Comme chacun de nous, il y a eu le geôlier en prise, qui gardait la prison, hein, qui était un Romain, il y a eu Corneille aussi, des non-Juifs. Alors, ça a été dur à accepter, ça, pour les Juifs, au début, de penser ça, là. Alors, ben nous aussi, le Seigneur nous a choisis, on est des gens, peut-être que tu dis, ben moi, je suis tellement ordinaire, tu sais, il me semble que je suis rien, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Mais le Seigneur, c'est ça, il bâtit avec des gens comme nous, comme vous et moi. Comme toi, Alors, il ne faut pas se diminuer, là. Parce qu'on vaut le prix du sang de Jésus. C'est quand même quelque chose. Alors, il a mis vraiment le comble à son amour pour nous en mourant sur la croix. Alors, il ne faut pas se minimiser, mais Jésus, il bâtit comme ça. Par la grâce, on ne mérite pas ça. Mais il a tout le contrôle sur tous les événements. Il connaît les brebis qui ne sont pas encore dans cette bergerie, qui sont peut-être dans la région ici. Puis le Seigneur, il sait comment faire pour nous amener vers elles, pour les rencontrer. C'est lui qui va faire ce travail-là. Ben, il va nous appeler, il va nous envoyer, il va déposer en nos cœurs ce fardeau de prier aussi, de disposer, de dire « Seigneur, utilise-moi ». Mais c'est lui qui va le faire aussi à travers nous. Alors, même l'apôtre Paul, il dit, si on va au chapitre 2 dans 1 Corinthiens, il dit au verset 3, il dit « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » Alors, Paul, tu sais, des fois, la parole nous dit que toutes ces personnes-là, là, c'était des gens de la même nature que nous, les apôtres, toutes les personnes que Dieu a choisies pour bâtir l'Église primitive au début. Ben c'est des gens comme nous. Il n'y a pas de différence. Il ne faut pas penser qu'ils étaient supérieurs. C'est l'œuvre de Christ dans leur vie. Et tout ce qu'ils ont pu faire, c'était l'œuvre de Christ par le Saint-Esprit. Alors, souvent, nous, c'est ça, on a tendance à vouloir peut-être un super prédicateur, des vedettes ou des personnes les meilleures. Tu sais, on a comme une obsession de la perfection, des fois. Et je me souviens, moi, j'étais jeune chrétien, puis j'étais allé, il y avait une église qui avait organisé dans un hôtel là, une fin de semaine d'évangélisation. Et puis, j'étais allé visiter cette église-là. C'était pas une église baptiste. Moi, j'étais dans l'église baptiste, mais c'est une autre église. Ah, c'est une bonne occasion d'aller voir comment qui fonctionne. C'était dans un hôtel. Fait que là, j'arrive là, et puis, il invite une jeune fille pour donner son petit témoignage puis chanter un chant. Elle avait à peu près 17 ans, la jeune fille. Puis, là, elle a commencé à jouer de la guitare. Fait que, puis là, elle chantait, tu sais, on va dire assez. C'était pas la perfection, là, mais tu sais, en plus, elle tremblait, tu sais, elle tremblait parce que, écoute, elle avait 17 ans. Ça faisait pas longtemps qu'elle était née de nouveau. Elle voulait le dire, elle voulait tellement le dire que comment est-ce qu'elle était contente de connaître le Seigneur. Puis elle avait composé un chant. Puis elle a commencé à jouer, puis c'était tout tremblant, sa voix, là. Mais moi, ça m'a tellement touché d'entendre ça. Mais son cœur était débordant pour le Seigneur. Et j'étais content de voir que les responsables n'ont pas choisi les meilleurs talents. Tu sais, une petite jeune fille qui commence, qui sait à peine jouer, à gratter de la guitare. Tu sais, mais ça se voyait, là, tu sais, qu'elle commençait, là. Mais ils n'ont pas hésité à la placer là. Puis moi, ça m'a touché. C'est ça qui m'a touché le plus dans cette soirée-là. Je pense à la seule chose que je me souviens encore. Puis ça fait au-dessus de 30 ans de cela, là. Mais c'est ça, il y avait aussi j'avais lu ça dans le calendrier La Bonne Semence, là, il y avait une chorale très renommée en Europe, là. Et puis, c'est sûr que là, c'était des personnes qui avaient quand même beaucoup de talent là, dans cette chorale-là. Puis le propriétaire de la chorale ou le chef, là, il faisait comme, comment on appelle ça quand on veut recruter quelqu'un, là, une audition pour essayer de trouver une personne qui allait faire le solo là, du chant là, « Je sais que mon rédempteur vit ». Vous connaissez ce chant-là, hein? Fait que, et puis là, il y a une jeune fille qui est arrivée justement pour faire l'audition. Fait que là, la jeune fille, elle chante le chant, là, toute l'orchestre l'a accompagnée. Je sais que mon rédempteur vit. Puis là, tout le monde écoutait ça, ils ont dit, c'était tellement parfait, là, c'était une voix là, extraordinaire. Puis là, c'était tellement parfait, puis là, tout le monde se disait, bien, c'est sûr qu'elle va être choisie. Puis le chef de chorale dit, mademoiselle, il dit, je ne peux pas vous choisir. Là, tout le monde se demandait, mais pourquoi il dit ça? Mais il dit, vous ne savez pas que votre Rédempteur vit. Alors, tu sais, c'est quelque chose, mais c'est pour dire, on peut tout dire ces choses-là, chanter des belles paroles, mais si je ne connais pas celui de qui qu'on parle dans ce chant-là, tu sais, je me souviens, moi, j'allais des fois dans les veillées de Noël en famille, là, j'étais déjà chrétien, puis dans ma famille, ben, mettons, les autres ne l'étaient pas, puis là, ça chantait le minuit chrétien, mettons, des chants, puis tout ivre en boisson, là, tu sais, c'est... même si tu as la plus belle voix du monde, si tu ne connais pas celui que ça parle dans ce cantique-là, là, ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Peut-être aux yeux des hommes, ça peut être beau quand même, là, la jeune fille. Là. Mais lui, là, il ne sentait pas qu'elle connaissait hein, ce Rédempteur-là, qu'elle ne l'avait pas dans son cœur. Alors, c'est pour ça que c'est l'œuvre de Dieu. Jésus, il bâtit sa maison. Il ne choisit pas nécessairement les plus beaux talents. Les meilleures personnes, mais choisis vous et moi, chacun de nous, ben ordinaire, le Seigneur a quelque chose à faire pour son royaume, pour bâtir sa maison. S'il nous a appelés, il ne nous a pas appelés pour rester oisifs. Il nous a appelés, peu importe notre âge, peu importe notre énergie, peu importe notre couleur, peu importe... Dieu peut utiliser même un jeune enfant, parfois, là, pour parler à quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, il ne faut pas mépriser ça... si je suis malade, j'ai pas d'énergie, ben, tu sais, si je sais que mon Rédempteur vit, hein, s'il est dans mon cœur, dans ma vie, eh bien, je peux être utilisé par lui, le Seigneur. Il va m'utiliser pour bâtir son Église, son Église. Alors, c'est ça le point principal, un petit peu là-dedans, c'est de savoir, mais c'est comment il bâtit. Hein? On sait maintenant avec qui, avec vous et moi, des gens bien ordinaires, mais il bâtit hein, par la grâce aussi. Puis on voit dans l'Église de Corinthe, il y avait une division, et on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 3, et de 9 à 11, 1 Corinthiens chapitre 3, 9 à 11, ça nous dit, « Car nous sommes des ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu, et selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, c'est Paul qui parle, j'ai posé le fondement, qui est Jésus, hein, comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Alors, le fondement, c'est Jésus. Paul a été appelé comme pour placer le fondement, puis là, un autre bâtit dessus, puis entre autres, on voit qu'au début du chapitre, il parle de... Il y en a qui disent, « Ah, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos. » Puis là, il y avait comme une contestation dans l'Église, là, une division, parce que là, les gens n'avaient pas le regard sur le fondement, hein, sur celui qui bâtit l'Église, mais ils avaient le regard sur les hommes que Dieu a utilisés. Alors, Dieu a utilisé Paul pour placer la pierre de fondement, puis après ça, Apollos, probablement qu'Apollos est venu après, mais... peu importe, mais ça dit un plante, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Alors, ça, c'est commencé à se diviser, mais dans beaucoup d'églises, là, il y a ces divisions-là de parfois. Là. Et puis, on est attaché à un homme, on est attaché à quelqu'un là, qui exerce un ministère ou par son charisme ou ses talents. Puis, ou c'est vrai que Dieu il a doué d'habileté des personnes aussi qu'il va utiliser, bien, des fois pour la parole. Mais c'est pas ça qui est le critère principal, c'est qu'ils connaissent, hein, ils connaissent son Rédempteur et qu'ils connaissent celui qui bâtit la maison, qui bâtit sa maison, qui a cette humilité de savoir que moi je travaille pour toi Seigneur, puis montre-moi tout ce que je dois faire, puis tout ce que je dois pas faire aussi, dirige-moi, enligne-moi, alors... C'est par la grâce, par l'humilité, par l'amour fraternel, uni par le lien de la paix, centré sur Christ. Bien, c'est comme ça que Jésus bâtit. Il nous donne des matériaux et puis on aura à rendre compte aussi comment, de quelle manière qu'on bâtit. Alors, quand on lit plus loin dans Corinthiens, c'est bien expliqué, là. Il y a des matériaux qui sont comparés à de l'or, de l'argent ou du foin ou de la paille. Alors, quand on travaille par la chair, c'est comme le foin et la paille, hein, ça ne passera pas l'épreuve du feu. Mais si on travaille avec l'Esprit de Dieu, eh bien, là, c'est comme de l'or, de l'argent, qui ça va passer l'épreuve du feu. Alors, on peut connaître parfaitement la loi de Dieu, puis ne pas connaître la grâce. Ça arrive, ça. Qu'on connaît la parole et puis on est tout le temps là en train, des fois, de critiquer sur les moindres petites choses. On manque de grâce envers les personnes que Dieu choisit souvent. Puis, il y a de la jalousie qui s'installe, des choses comme cela. L'attitude légaliste, souvent, ben, ça amène des chrétiens qui sont toujours choqués, toujours irrités par quelque chose qui ne marche pas comme ils voudraient. Puis, c'est pas correct. Puis, tu sais, mais ça, c'est tellement important de. Et Jésus, on le voit, par exemple, dans Luc 10, dans Luc 19, avec Zachée, là. Toute l'histoire de Zachée, il est venu vers Zachée, qui était un collecteur d'impôts, et puis qui était détesté par tous les Juifs, par tous ses compatriotes, hein, parce que lui, il ramassait de l'impôt pour les Romains. C'était terrible, là, à Jéricho. Et puis, mais Jésus, il dit, dans Luc 19, 10, il dit, le Fils de l'homme, ben, c'est lui, le descendant de David, le Messie, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Puis il est venu vers Zachée, qui était monté dans l'arbre. Ça nous dit que Zachée, il voulait voir qui était Jésus. Hein? Tu sais, quand Jésus dit, qui dites-vous que je suis, là? Qui dit-on que je suis? Mais c'est ça, Zachée, il voulait voir. On voyait que dans son cœur, Dieu l'attirait, le Père, là. Il voulait voir qui, pas juste le voir Jésus, là, qui fait des miracles, mais il voulait voir qui il était. Et c'est ça que Dieu, là, Jésus s'est révélé à lui. Viens, il faut que j'habite dans ta maison aujourd'hui. Puis Jésus a révélé, hein, le Père a révélé à travers Jésus qui était Jésus, et il s'est repenti. Sa repentance a été vraiment manifestée, là, parce qu'il a dit, tu sais, Seigneur, là, maintenant, là, je vais remettre tout ce que j'ai pris aux autres, puis je vais, même si j'ai fait tort à quelqu'un, moi, y rendre le quadruple. Tu sais, dans la loi, là, lorsqu'on voulait réparer un tort, c'était jusqu'à 3 fois. Mais lui, il va plus encore. Tu sais, la grâce, là, c'est que tu donnes bien plus que ce que dit la loi. Et alors, on voit que sa repentance était vraiment réelle. Je termine ici, là, j'achève. Puis on le voit dans Luc 15 aussi. On voit avec le fils prodigue. On voit la brebis perdue. On voit avec la dame qui a perdu sa monnaie et qui la cherche partout. Puis quand elle l'a trouvée, hein, toute la joie qu'il y a. Et puis, on voit le fils prodigue aussi qui avait tout dépensé dans la débauche et qui est revenu dans la repentance. Il a demandé pardon à son père. Puis on voit le fils aîné, lui, qui est toujours resté intègre avec son père, à travailler dans les champs, à suivre toutes ses directives. Puis il n'a pas été capable de se réjouir que son frère, que son père a accueilli son frère qui était dans débauche, mais qui revient à la maison repentant. Il disait même, je ne suis pas digne de t'appeler ton fils, traite-moi comme l'un des serviteurs. Mais le frère qui était irrité, fâché, et on voit, tu sais, c'est le côté légalisme et la grâce n'était pas là. Et puis, le père va lui répondre, mais mon enfant, lui dit le père, au verset 31, là. Il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Alors, on voit, il connaissait la loi, mais il ne connaissait pas la grâce. Il connaissait la loi de son père. Je termine avec un exemple aussi. Quand j'étais adolescent, j'avais peut-être 12, 13 ans, oui, je me souviens. Il y avait une chanteuse au Québec, j'aimais tellement cette chanteuse-là. Puis les chants qu'elle chantait, c'était un beau contenu. C'est elle qui chantait, là, qu'il fait bon d'être arrivé chez des gens sympathiques. Vous savez de qui je parle? Les personnes, il y a beaucoup de personnes ici, là, qui ont les cheveux blancs, vous la connaissez. Puis moi, je l'aimais, cette chanson-là, puis je me souviens, je demeurais en famille d'accueil dans ce temps-là. Et puis, il y avait quelqu'un qui chantait bien, puis il avait une belle voix, puis il chantait ses chants. À elle s'appelle, c'est Caro, Caroline Vallée, de son vrai nom, la chanteuse Caro. OK, c'est pas. Ouais, je voulais y venir, mais c'est que, ouais. Fait que là, moi, j'étais en admiration, cette chanteuse-là. Elle commençait, c'était dans le temps de jeunesse d'aujourd'hui, là, elle passait, là. Puis, à un moment donné, ben, elle a disparu, on la voyait plus, un certain temps. Puis, à un moment donné, je vois apparaître un poster de cette femme-là. Puis, elle était sur un poster, puis elle était comme à moitié nue, avec juste une petite veste par-dessus elle, ouverte, là, il n'y avait rien en dessous. Puis là, ça m'avait tellement choqué, là. Je me disais, « Ah, mais est-ce qu'elle est rendue? Elle est donc bien dépravée. » Puis aujourd'hui, les gens font presque pas de cas d'une mode de même. À ce temps-là, là, c'était plutôt choquant de voir ça. Fait que là, autant je l'avais aimée, là, je la détestais. Là, j'étais fâché. Tu sais, j'étais fâché parce que je l'aimais. Tu sais, je la trouvais super sympathique, puis tout cela. Puis je trouvais qu'elle dégageait des bonnes valeurs dans ses chants. Puis là, la voir comme ça, j'ai dit, c'est que, où est-ce qu'elle est rendue? Ça n'a pas d'allure. Mais moi, quand j'ai accepté le Seigneur, c'était en 1977, fait quelques années. Hein? Ça fait presque, ça va faire 50 ans bientôt. Puis, dans la première année, dans l'église où j'ai accepté le Seigneur, c'était à Grimby. Et puis, les personnes qui avaient accepté le Seigneur, ils donnaient leur témoignage la première année. On faisait ça, là, à la longue veille, là, au jour de l'an. Il y avait une réunion spéciale. Puis là, toutes les personnes qui avaient accepté le Seigneur durant l'année, s'ils voulaient, donnaient un petit témoignage. Puis, qu'est-ce que je vois pas? Je donne mon témoignage, mais tout de suite, après moi, c'est Caro, la chanteuse, que le Seigneur avait sauvée. Hein, ça m'avait tellement touché, là. Mais tu sais, moi, j'aurais jamais pensé ça. Mais vous savez, il y a une chrétienne qui s'appelait Thérèse Lachapelle, qui avait, son vrai nom, c'est Thérèse Charon, d'une famille de musiciens et de chanteurs. Elle avait composé un beau CD chrétien, parce qu'elle était chrétienne. Puis, elle avait composé un beau CD avec des chants chrétiens. Puis, elle a demandé à Caro de venir faire des voix d'accompagnement, là, pour son CD. Caro n'était pas sauvée à ce moment-là, là. C'est sûr qu'il y a des personnes, là, qui ont dit, oh, écoute, ça se fait pas, là. On ne peut pas faire ça, elle n'est pas chrétienne, ça, tu sais. Mais tu sais, il ne s'agissait pas de la faire chanter à l'avant dans l'église, là. Il s'agissait juste de faire des voix. Puis, c'est ça, ils se connaissaient un petit peu, là. Puis, fait Caro, elle a accepté. Puis, dans un de ses chants, ça parlait de la brebis perdue. Excusez, c'est touchant, ça. Mais c'est ça, c'est en chantant ce chant-là, en écoutant les paroles par les chantants, elle s'est reconnue comme une brebis perdue. Puis elle a dit, c'était pas dur, parce qu'elle a dit, elle a témoigné après cela, Caro a donné son témoignage partout, elle est devenue une évangéliste avec Régent Joly. Ils ont fait, dans Aujourd'hui, l'Espoir, puis partout, ils ont fait le tour du Québec, puis des Maritimes, dans beaucoup de places. Elle a donné son témoignage, mais c'est ça, dans cette période-là, justement, elle est tombée dans la consommation. Elle a descendu très, très bas, justement, elle racontait ça. Puis elle ne voulait plus vivre. Elle se dégoûtait elle-même de ce qu'elle était rendue. Mais c'est ça, elle n'arrivait pas à s'en sortir. Mais on voit que le moyen que Dieu s'est servi, hein, à travers des personnes comme ça, comme Thérèse Lachapelle, qui l'a invité. Hein. C'est un geste de grâce. Puis, tu sais, c'était pas pour composer le chant, pour le diriger. Là. C'était juste pour faire une voix d'accompagnement. Parce qu'elle avait le don pour ça. Je sais pas si elle accompagnait à la guitare aussi, mais en tout cas, je sais que c'était pour les voix. Mais tu vois, aujourd'hui, ben, c'était une évangéliste. Elle demeure encore à Granby, Caro, mais là, actuellement, là, elle fait du Parkinson, elle est assez avancée, là. Elle fait du Alzheimer aussi. Alors, à voir l'Église de la foi, Baptiste de la foi, le flambeau de l'espoir à Granby. Mais elle a travaillé, tu sais, je ne sais pas combien d'années, une quarantaine d'années, quasiment dans l'œuvre du Seigneur. Là. Alors, c'est ça, tu sais, d'agir par la grâce de Dieu et de faire attention. Le Seigneur, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Puis, il veut le faire encore aujourd'hui à travers nous, à travers vous, à travers moi. C'est ce qu'il veut faire. Alors, je termine avec ça. Juste dans 1 Pierre, au chapitre 2, les versets 4 à 8, ça nous dit « Approchez-vous de lui, pierre vivante et rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, là, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Et l'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, entre autres les docteurs de la loi à ce moment-là, qui étaient sûrs qu'ils bâtissaient la maison de Dieu, là, mais ils l'ont rejetée à pierre principale, qui était Jésus, qui était le fondement, bien, elle est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ils s'y heurtent pour ne pas avoir cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Alors, mais c'est ça, là, nous qui bâtissons, c'est Jésus qui bâtit son Église. Puis chacun de nous, il nous a choisi comme une petite pierre, une pierre vivante, c'est-à-dire qui c'est pas des briques toutes pareilles, hein, toutes taillées, faites de main d'homme. Là. Chaque pierre, c'est comme toute différent. Ça a été forgé par toute l'histoire de la vie, hein, comme des pierres dans l'eau qui ont de l'usure, peu importe. Mais il y a des petites, des grosses, peu importe. Il y a toutes sortes de formes de pierres, de couleurs, de textures. Mais tout ça, là, on est des pierres vivantes pour former une maison spirituelle. Et en autant que c'est toujours Jésus qui est la pierre d'angle. Puis qu'on travaille, c'est lui l'architecte, hein, on y va avec les enseignements des apôtres. Et puis, mais dans la simplicité de cœur, en communion avec le Seigneur. Puis Seigneur, donne-moi ta direction, puis utilise-moi aujourd'hui. Comment tu veux m'utiliser aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi que je peux travailler dans l'édification de cette église-là, de cette bâtisse spirituelle qui est la tienne, parce qu'il n'y a rien qui est impossible au Seigneur pour chacun de nous. Amen. Je prie. Mais Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Daigne nous aider à réaliser dans nos cœurs à quel point tu travailles, comment tu travailles, Seigneur, et ne pas faire exception de personne, mais avoir cette grâce aussi de s'accueillir les uns les autres et de ne pas avoir peur de ne pas être capable à cause de nos faiblesses ou de on se trouve pas bon, on se trouve toutes sortes d'excuses, de raisons. Mais Seigneur, c'est toi, Seigneur, qui a le pouvoir d'accomplir ce que tu veux accomplir dans chacun de nous. Et nous te prions, Seigneur, de nous diriger et de nous... tu nous as déjà équipés par ton Saint-Esprit qu'on puisse te faire confiance, Seigneur, dans ce que tu veux bâtir et dans ce que tu mets dans nos cœurs, qu'on puisse avancer, oser ouvrir la bouche en ton nom et s'attendre de toi parce que c'est ton Église et c'est toi qui bâtis. Puis le succès, il repose sur toi puis il est déjà accompli à l'avance, ce succès-là. Alors, je te remercie du privilège que tu me donnes, Seigneur, de faire partie de ta maison, d'être une pierre, mais que cette pierre-là soit une pierre vivante entre tes mains, Seigneur. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, mes frères et sœurs.